France Info.
Bonsoir à tous. Il faut que je vous fasse un aveu. J'adore ce moment de la journée. L'indicatif désinformé vient de retentir dans ce magnifique studio 221 de la Maison de la Radio. Je vous imagine, vous, bien calé dans votre canapé, face à votre télévision sur le canal 27, ou mieux encore, sur la radio, coincé dans les embouteillages, dérangé par personne. Ça, c'est vous. Et puis, il y a eux, les informés, tendus, concentrés, affûtés, avec un petit peu de stress, de trac. Ils ont préparé, fourbi leurs arguments toute l'après-midi et les voilà prêts à ferrailler. Je vais vous les présenter et il faut d'abord que je m'excuse auprès de vous parce que les femmes ce soir nous ont fait faux bond. Bref, on va avoir des informés masculins, très masculins, trop masculins. Bonsoir Eric Scholl.
Bonsoir.
Directeur de la rédaction de Courrier International. Franck Dedieu, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Vous êtes directeur adjoint de la rédaction de Marianne. Un avocat également sur ce plateau, Arnaud Clair. Bonsoir. Vous êtes associé du cabinet Lafarge. Et puis un petit nouveau, Antoine Boulet. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Partenaire, ça veut dire que vous êtes un grand patron en charge de la communication de crise chez Havas. Voilà, c'est parti pour une heure de débat, messieurs. Vous connaissez la règle, les informés, il n'y en a pas. Allez, commençons par ce qui s'est passé hier soir sur France 2 et France Inter. C'est ce débat à 12 candidats, 12 têtes de 12 listes en piste pour les européennes. Si vous avez manqué ce grand moment, petit florilège, regardez, écoutez.
La crise migratoire, elle n'a pas encore commencé. L'explosion démographique du continent africain est devant nous.
Vous n'allez pas regarder les gens droit dans les yeux, des gens qui ont deux bras, deux mains, deux jambes, comme vous. Et vous n'allez pas le renvoyer dans des bateaux en disant « Allez, allez mourir en Méditerranée ».
On veut nous faire croire que le retour aux frontières nationales, c'est le moyen, la panacée, pour se protéger aussi bien d'ailleurs des migrations que des terroristes. C'est un mensonge.
Si l'Europe avait eu la fermeté de l'Australie, il n'y aurait pas de mort en Méditerranée. Parce que les migrants et les passeurs sauraient que systématiquement, les personnes sont sauvées et raccompagnées sur le continent africain.
Voilà, si vous ne les avez pas reconnus par ordre d'apparition, François-Xavier Bellamy, Manon Aubry, Jean-Christophe Lagarde et Nicolas Dupont-Aignan, comment est-ce que vous les avez trouvés globalement, Franck Dedieu ?
Eh bien, il faut distinguer la forme et le fond. La forme, c'est vrai, vous avez parlé de cacophonie. Effectivement.
J'ai dit bazar.
Vous avez dit bazar, poliment.
Ne travestissez pas.
Cacophonie, c'est presque synonyme. Et puis c'est vrai, on voyait que ces journalistes étaient contraints de couper régulièrement les débatteurs.
Oh, ils faisaient bien ce qu'ils pouvaient.
Et voilà, c'est ce que j'allais vous dire. C'est qu'ils faisaient bien ce qu'ils pouvaient. Ils étaient quand même extrêmement contraints par le temps et par le fait qu'il y avait 12 personnes. Je crois que ça, il faut quand même le reconnaître. Moi, je crois, parce qu'il est de bon ton finalement de critiquer ce débat, de le dénigrer largement, sur la forme, il y a quand même eu deux choses qui m'ont intéressé. C'est premièrement, il y a quand même eu un éventail très large des opinions, et c'est finalement assez rare à la télévision française qu'on voit un éventail aussi large. On savait bien que pendant, alors c'est peut-être plus vrai aujourd'hui, mais pendant des années, il y a eu quand même une forte imprégnation de la pensée très fédéraliste, très pro-européenne. Là, on a vu que c'était beaucoup plus balancé, et après tout, c'est pas mal parce que les Français aussi exprime des opinions larges. Et puis enfin, deuxièmement, sur la question du fond toujours, c'est qu'il y a eu finalement, le plus intéressant à mes yeux, c'est qu'il y a eu trois matchs à l'intérieur même du débat. Trois matchs, je dirais, de parts de marché sectorielles.
Alors, on va y revenir, Franck Dedieu, pardon de vous couper la parole, mais premier tour de table, Arnaud Clair ou le ténor du barreau, comment vous l'avez trouvé? Bon communicant, bon orateur?
Oh non, j'ai surtout trouvé que après les élections présidentielles et législatives, c'était à peu près la première fois où on voyait le paysage politique français actuel, et on voit donc 12 personnes totalement différentes. Les choses ont complètement changé puisqu'on a beaucoup de visages méconnus. On a un parti socialiste qui est plus vraiment là ou qui est une gauche en mille morceaux. Et donc c'était surtout une image de la nouvelle situation actuelle. Quand on dit qu'après Macron tout a explosé du côté de tous les partis politiques, et ben là on avait 12 personnes, 12 sujets différents, effectivement des parts de marché qui se combattent.
Mais le c'était paysage surtout politique, voilà, français façon puzzle, quoi.
Exactement.
Antoine Boulet.
Moi, je vous dirais qu'il y a 49 millions d'électeurs, 20 millions de votants a priori, si on a 40% de participation, et il y avait 1,6 million de téléspectateurs en moyenne pendant le débat, 2,2 millions au plus haut et 700 000 à la fin. Donc c'est quand même, et pour vous, c'est le plus mauvais score des émissions politiques de France 2 depuis le début de l'année. Et Hulot, pour donner un ordre de grandeur, avait fait 3,3 millions. Alors c'est normal, c'est le premier débat, mais d'abord Primo, ça n'a pas passionné les Français.
Pardon.
Non mais c'est normal que
croyez qu'il y aura plus de monde la prochaine fois?
Oui, je pense qu'au fur et à mesure que le débat européen et des élections montrent en puissance, il y aura plus de monde. Après, je dirais une deuxième chose, c'est que il y a dans ce public, il y avait une écrasante majorité de plus de 50 ans. Donc ça aussi, ça dit quelque chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'information se passe aussi et principalement, notamment chez les jeunes, par les médias sociaux. Donc que faisons-nous pour les intéresser au débat européen? Et puis troisième chose, ces débats, ils sont souvent, malgré tout, l'occasion de révélation. Moi, je dirais que celui qui m'a surpris hier, c'est Jean-Christophe Lagarde. Il était celui qui avait la pensée et l'expression la plus claire dans sa ligne politique. Mais en termes, en tout cas, de forme, la plus claire, il a un peu fait le break par rapport à d'autres, dont certains se sont carrément complètement enfoncés.
Éric Scholl, vous avez trouvé Jean-Christophe Lagarde aussi au-dessus des autres ou...
Non, moi je me suis un peu ennuyé, mais en même temps, ça a commencé. Voilà, il fallait que cette campagne pour les élections européennes commence, il lui fallait un moment médiatique, ça y est, ça a eu lieu. Ça fait pas beaucoup d'audience, c'est vrai. Enfin, peut-être qu'effectivement maintenant les sujets vont arriver, et Franck de Dieu l'a souligné tout à l'heure, on voit quand même une diversité de points de vue importante. On voit aussi cet émiettement de la politique française.
Aussi
depuis
les grands blocs, quand même.
Hein, oui, on voit fédéralistes, souverainistes.
Non, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de diversité entre Glucksmann, Jadot, Hamon. Il n'y a pas de diversité. Ils sont là à se combattre sur le même mouchoir de poche. Enfin, mouchoir de poche aujourd'hui. Et ce combat-là est délétère pour
eux. C'est le côté division.
Eux.
C'est cette division. C'est, en fait, on se rend compte que depuis 2017, la politique française n'a pas encore su se reconstruire. Donc, c'est exactement ce que présente le visage, par exemple, de ces candidats de gauche. D'ailleurs, je crois que Glucksmann l'a très bien dit. Au fond, ils sont trop nombreux. Ils sont pas arrivés à se mettre d'accord.
Eh ben, ils sont trop nombreux. On va voir s'ils sont trop nombreux. On va continuer à débattre de ce débat d'hier soir. Mais vous savez comment ça se passe sur France Info. Quand il est 20h10, on s'arrête parce que Jules de Kiss vient d'arriver pour l'info.
Une porte s'ouvre, d'après l'Association de défense des victimes de l'amiante. La Cour de cassation décide de reconnaître le préjudice d'anxiété de tous les travailleurs exposés aux matériaux toxiques, et pas seulement ceux des entreprises les plus concernées. D'après les associations, 100 000 personnes pourraient mourir de l'amiante en France d'ici 2025. Le patron de l'ONU quitte la Libye et se dit très inquiet. Des combats sont en cours au sud de Tripoli alors qu'il vient de rencontrer le général Haftar. C'est l'homme fort de l'est du pays qui ordonne à ses troupes de marcher sur la capitale. Antonio Guterres n'a donc pas su se faire entendre. Il n'y a pas de solution militaire à la crise, seulement une solution politique, a-t-il estimé. La stupeur ce soir dans un commissariat d'Avignon. Deux policiers municipaux ont été retrouvés morts. Un homme et une femme qui se trouvaient tous les deux seuls dans la pièce d'après les premières constatations. Il serait absurde de s'interdire d'étudier les possibilités du cannabis thérapeutique, d'après le Premier ministre. Édouard Philippe en visite aujourd'hui dans une exploitation en Creuse qui envisage de cultiver la plante à des fins médicinales. Pour conserver ses très minces espoirs de Ligue des Champions l'année prochaine, l'OM doit impérativement gagner à Bordeaux ce soir pour la 31e journée de Ligue 1 de football. Coup d'envoi dans un peu plus d'une demi-heure à 20h45.
France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et c'est le débat sur le débat pour commencer les informer ce soir avec cette question. Est-ce que ce débat hier avec 12 candidats pour les élections européennes va donner envie aux Français d'aller voter? Tenez, allez, écoutez cet autre petit extrait.
Comment faites-vous la transition écologique quand vous avez juste 3% de déficit? Comment faites-vous les 3%
On fait un investissement
la transition
avec
écologique avec le libre-échange et 12 traités de libre-échange qui vont être signés et organiser le grand déménagement? Comment faites-vous la transition écologique quand
on parlera de transition.
Je pense que c'est l'enjeu majeur.
Le problème, c'est que quand on a une écologie de témoignage, on ne pèse pas sur le Parlement européen. Aujourd'hui, ce que nous voulons, c'est une... Est-ce que vous pouvez me laisser parler après tout?
Vous
n'êtes pas une voix aussi grosse que vous, monsieur Jadot.
Moi, j'ai eu du mal à rentrer dans ce débat parce qu'en fait, je regardais et je me disais, si la situation est si grave, pourquoi Benoît, pourquoi Yannick, on n'est pas en train de se battre ensemble, en fait?
Vous disiez cacophonie, hein, Franck de Dieu. Alors vous avez reconnu Manon Aubry, Yannick Jadot, Nathalie Loiseau, Raphaël Glucksmann. Et c'est vrai qu'on avait l'impression que finalement il y avait des blocs quand même, hein, pendant ce débat. Il y avait notamment, on a commencé à en parler, un gros bloc de gauche où l'idée c'est évidemment de piquer l'électeur au voisin, quoi.
Oui, voilà. Il y avait pas finalement. On s'attendait à ce qu'il y ait un débat un peu. Je dirais un peu conceptuel entre, je dirais, la vision un peu souverainiste contre la vision fédéraliste. Eh bien non, en fait, il y a eu des débats internes. Il s'agissait pas de convaincre dans l'absolu, mais de convaincre relativement à l'autre. Par exemple, on a eu le débat écolo entre ELV et Hamon. On a eu le débat, le match des eurosceptiques de droite entre Philippot, Rassemblement National, Debout la France. Et puis, un autre débat interfédéraliste entre Lagarde pour l'UDI, Nathalie Loiseau et Génération. Et donc, et là, effectivement, moi, ce qui ressort de ces trois débats, ces micro-débats, ces parts de marché, parce que c'était finalement cela l'enjeu, c'est peut-être que pour ça d'ailleurs que ça a moyennement intéressé les Français, c'est que j'ai l'impression qu'il y a eu une prime, je dirais, au parti dominant dans ces trois débats. C'est-à-dire, sur le match des eurosceptiques de droite, ben, c'est plutôt Rassemblement National qui a pris un peu, qui a consolidé son avance par rapport aux autres. Sur le match écolo, j'ai l'impression qu'Hamon n'a pas émergé et que ELV voulait capitaliser sur son avance. Et sur l'Europe fédérale, à la différence de vous, j'ai l'impression au contraire que Lagarde et Hamon, qui étaient plutôt fédéralistes, n'ont pas véritablement réussi à convaincre par rapport à Nathalie Loiseau qui n'a pas fait d'erreur et qui a conserver un peu son capital et son avance institutionnelle.
C'est intéressant, Antoine Boulay, une prime au gros parti, une prime au sortant.
En tout cas, sur Nathalie Loiseau, je vous rejoins, c'est-à-dire que ayant été elle-même la cible de nombreuses attaques, elle a d'ailleurs été située au milieu.
Et d'ailleurs, elle était au centre du débat.
Voilà. L'une des deux seules femmes, par ailleurs, ce dont on ne peut pas se réjouir, malgré le plateau de ce soir. Également, le choix de sa veste, je le dis, c'est secondaire, mais en même temps, elle était cette touche de couleur dans ce plateau. Et Ségolène Royal l'a précédée sur ce genre de choix, mais qui à la fois est anodin, mais en même temps est une chose. Bon, cela étant, elle a surtout tenu par une sorte de solidité, effectivement, et je trouve qu'elle a émergé. Inversement, on a assisté à des noyades. La tirade de Raphaël Glucksmann à la fin sur « je regardais ça de côté »,« je ne suis pas un pro », il n'arrête pas de répéter « je ne suis pas un professionnel de la politique », ok, mais maintenant, il est là, tête de liste, d'un grand parti.
C'est un peu sa marque de fabrique,
mais enfin, à un moment donné, on attend, non pas que ce soit un professionnel au sens d'une sorte de vieux routier, mais on attend qu'il soit en tout cas là et bien là. Pour le moment, il n'habite pas le rôle. Et quant à Benoît Hamon, il fait toujours des propositions un peu décalées. Là, on a eu les perturbateurs endocriniens pendant la campagne présidentielle. Là, c'était l'idée du crime d'écocide. C'est-à-dire, on a l'impression qu'il est toujours un peu à côté. Alors, ça a fait le plus mauvais score du PS au présidentiel. Ça fera sans doute le plus mauvais score aux européennes.
Arnaud Clair.
Oui, enfin tout ça pour dire que effectivement c'était une cacophonie qui fait qu'on n'est pas tellement intéressé par ce qui s'est dit, et surtout j'ai pas trouvé que sur le fond il y avait personne ne donnait envie d'avoir une Europe plus forte, plus intéressante, plus utile aux Français, et que on est parti sur plein de petits sujets, mais cette cacophonie a pas été spécialement positive pour l'idée européenne, quelle que soit l'idée qu'on se fasse, mais j'ai trouvé que c'était vraiment la cacophonie peu intéressante.
Éric Scholl, vous avez eu ce sondage, c'est un sondage au Doxa pour France Info dont on a pas mal débattu hier. L'Europe ne suscite un espoir pour plus de 29% de la population française. Aujourd'hui, c'est quand même très peu, et finalement le débat d'hier soir va pas entraîner véritablement les masses, quoi.
Oui, mais parce que dans les débats hier soir, il était naturel qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin aussi de taper sur l'Union européenne. Donc l'Union européenne s'est retrouvée un peu la cible à plusieurs reprises. C'est aussi la forme de ce débat, évidemment, se fait au détriment du fond. Quand on a 12 candidats, c'est très compliqué d'aller sur le fond, et on sait à quel point ces sujets européens sont d'abord, c'est vrai, compliqués souvent. Donc il faut essayer de les résumer, de les simplifier, mais ils sont compliqués. Il faut arriver à se projeter souvent au-delà des frontières, ce qu'ont quand même beaucoup de mal à faire les candidats, pour essayer d'aborder l'élection européenne. On est en train de parler de 450 millions de citoyens européens, on n'est pas en train de parler juste des Français. Et ça, je crois qu'on a beaucoup de mal à le faire dans notre classe politique en France, c'est-à-dire de comprendre quelles sont les thématiques qui vont intéresser l'ensemble des Européens. Quand on parle de migration, il faut le prendre au niveau de l'ensemble des Européens. Quand on prend l'ensemble des sujets, quand on parle des frontières, quand on parle par exemple de la Chine, quelle attitude avoir avec la Chine, c'est pas juste un sujet pour les Français. Et là, les candidats gagneraient, si vous voulez, à élargir leurs propos et s'inscrire dans quelque chose d'un peu plus grand qui dépasse le monde politique.
Mais ce qui est étonnant, c'est comme on n'a jamais vu un débat avec autant d'eurosceptiques, finalement.
Oui, sur la on en a eu. Bah attendez, en 93, on a eu Maastricht. Enfin, si vous reprenez quand même l'histoire de notre histoire depuis maintenant presque 30 ans, on a quand même des débats sur l'Europe.
Sur les européennes, le nombre de listes eurosceptiques est flagrant. Moi, j'ai aussi observé une chose frappante. La mondialisation, c'est-à-dire au fond derrière la mondialisation, qu'est-ce qu'il y a? Le libre-échange. Il y a une sorte aujourd'hui de quasi-unanimisme anti-libre-échange. Même les libre-échangistes pendant le débat étaient sur la défensive. On nous dit que ça détruit des emplois, etc. Personne ne vient nous rappeler que le libre-échange a permis à la planète de passer de 4 à 7 milliards d'habitants sans augmenter ni la pauvreté ni la malnutrition, que l'Asie mange à sa faim et que le contraire du libre-échange, c'est la guerre. Donc personne ne va rappeler ça, alors que c'est une donnée absolument majeure, y compris dans le débat européen. Donc on sent très bien, oui, que non seulement l'euroscepticisme, mais même plus globalement, le scepticisme général par rapport à un ensemble d'acquis depuis 45, a le vent en poupe, c'est très clair.
Oui. Franck de Dieu ?
Non, quand vous dites le libre-échange, c'est la paix, le protectionnisme, c'est la guerre, je vous rappelle quand même que lors de la guerre de l'opium, les navires de commerce ont précédé les navires de guerre. Mmh. Et que aux États-Unis, lors de la guerre de sécession, savez-vous que bien les protectionnistes, c'était plutôt les nordistes qui étaient anti-esclavagistes, et ceux qui étaient favorables au libre-échange pour le coton et avec des relations avec l'Angleterre, et c'était les libre-échangistes. Dire l'inverse serait aussi une erreur, de dire forcément le protectionnisme c'est la paix. Non, ce que je veux dire par rapport au protectionnisme, c'est qu'effectivement, vous avez quelque chose qui se dessine à droite et presque à gauche et aussi à droite chez les centristes sur le protectionnisme vert. En fond, on dit finalement, quand nous on fait des efforts pour...
Le libéralisme a disparu, mais alors là, défense de l'environnement, le monde le revendique.
Si vous remarquez bien, dans le protectionnisme vert, il y a presque deux mots qui s'opposent. Il y en a un qui charrie avec lui quelque chose d'un peu sulfureux, le mot protectionnisme, et puis il y en a un qui est au contraire positif, super, le vert. Bon. Il se trouve aussi qu'il y a aussi un protectionnisme social sur lequel on devrait se pencher. La France insoumise s'y penche avec ce qu'il appelle le protectionnisme humaniste, c'est-à-dire qu'au fond, les pays qui ne respectent pas un certain nombre de règles écologiques et d'investissement vert, eh bien on les pénaliserait via des droits de douane parfaitement légitimes, mais pardon de vous dire, mais pourquoi ferait-on pas de la même manière avec les pays qui ne respectent pas les droits sociaux?
Parce qu'il y a une petite chose qui s'appelle l'OMC, mais là où je vous rejoins, c'est qu'il y a un unanimisme sur le plateau contre le libre-échange.
Il y a une autre petite chose sur le plateau qui s'appelle La Pendule, Antoine Boulay. Il est 20h20, vous écoutez Les Informés, on se retrouve dans une minute. Mais d'abord, c'est l'info avec Jules Dequis.
Après avoir obtenu la démission du président, le peuple demande le départ de ses proches. Les Algériens ont de nouveau manifesté aujourd'hui, des centaines de milliers de manifestants dans les rues. Ils demandent une transition politique sans membres du système Bouteflika. Alors que le Brexit se profile, la Grande-Bretagne va quand même continuer à préparer d'éventuelles élections européennes sur son sol. La raison est simple, sa sortie de l'Union pourrait bien intervenir après ce rendez-vous électoral le 23 mai. La première ministre britannique demande à Bruxelles un nouveau report au 30 juin, le temps de trouver un accord avec son Parlement. Faire toute la lumière sur le rôle de la France dans le génocide du Rwanda, c'est l'ambition d'Emmanuel Macron, qui donne accès à toutes les archives françaises sur cette période à un comité d'historiens et de chercheurs. Annonce du président de la République le jour du 25e anniversaire de la fin du génocide. À l'image de son homologue italien, Matteo Salvini, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner s'en prend aux ONG qui secourent des migrants en Méditerranée. Elles ont, selon lui, pu se faire complices des passeurs en étant en contact téléphonique avec eux. Il les appelle à avoir une attitude responsable. Des nouvelles du roi Pelé, l'ancienne gloire du foot brésilien, à Paris après sa rencontre avec Kylian Mbappé. Il dit se sentir beaucoup mieux ce soir. Il est hospitalisé depuis deux jours près de Paris.
France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Il y a 25 ans, presque jour pour jour, débutait le plus effroyable génocide qu'ait connu le continent africain. En quelques semaines, 800 000 Tutsis vont trouver la mort sous les coups de machettes Hutu. Et aussi avec cette question lancinante depuis 25 ans, quelle est la responsabilité? Y a-t-il une responsabilité de la France? Paul Kagame, le président rwandais, en est persuadé. Jules Dequis nous le rappelait dans les titres. Emmanuel Macron a annoncé aujourd'hui la création d'un comité d'historiens et de chercheurs pour faire la lumière sur cette page sombre. Il sera présidé par l'historien Vincent Duclerc qui était sur France Info tout à l'heure. Écoutez.
Nous, ce qu'on demande, c'est l'ouverture complète des archives et qu'elles soient pas accessibles justement juste à un petit groupe d'historiens, mais qu'il y ait une vraie ouverture complète. Et là, quand on dit de tout, les anciennes archives de l'Élysée, mais aussi celles du ministère des Affaires étrangères et surtout celles de la Défense, celles des services secrets. À la Défense, on parle de centaines de cartons, de centaines de milliers de pages. Et tout ça, il faut que ça soit accessible aux chercheurs publiquement pour qu'on puisse avoir un vrai débat scientifique, un débat de fond sur le rôle de la France dans le génocide des Tutsis.
Éric Scholl, directeur de la rédaction de Courrier International. C'est une bonne initiative que celle que vient de prendre Emmanuel Macron.
Oui, oui, c'est absolument nécessaire. C'était demandé, c'était réclamé. Il y a déjà eu des gestes d'ouverture. Hein. En 2015, François Hollande avait dit qu'il ouvrait les archives de l'Élysée. Et on s'est rendu compte après, parce que des chercheurs ont voulu y accéder, qu'en fait, ils n'arrivaient pas à accéder à tout ce qu'ils voulaient. Et notamment, il y a des cartons qui sont restés plus ou moins classifiés, ou alors on a mélangé des documents qui étaient censés rester classifiés avec des documents qui n'étaient plus. Donc, on voit bien qu'il y a quand même, notamment dans l'entourage, je dirais, de l'Élysée de l'époque, parce qu'il faut se replacer en 1994 dans le contexte français. On a le président de la République François Mitterrand, on est en cohabitation avec Édouard Balladur, et déjà à l'époque, si vous voulez, il y a beaucoup de tiraillements au sein du pouvoir français sur le rôle de la France, notamment le rôle très très précis.
Mais ça veut dire que la France est coupable.
On a des suspicions assez fortes. Maintenant, ces documents permettront de savoir ce qui s'est passé entre, si vous voulez, le 22 mai, c'est-à-dire le 22 juin, c'est-à-dire au moment de l'opération turquoise jusqu'à la fin de cette opération. C'est le moment, si vous voulez, où la France engage cette opération turquoise qui est censée venir défendre, enfin, en aide aux Tutsis. Et en réalité, on soupçonne la France d'avoir continué à fournir des armes, alors que normalement il y avait un embargo, des armes aux génocidaires, c'est-à-dire au régime Hutu. Donc toutes ces questions-là n'ont jamais été totalement résolues. On est encore sur des hypothèses quand même qui méritent aujourd'hui d'avoir des éclaircissements. Et le seul moyen d'avoir des éclaircissements, c'est par ces archives qui sont jusqu'à présent restées fermées, et sans doute parce que des gens n'avaient pas envie de les ouvrir.
Arnaud Clair, justement, est-ce qu'on risque pas de rouvrir peut-être aussi des cicatrices encore
et puis la question, c'est est-ce que 25 ans, c'est suffisant ou pas? Moi, j'ai toujours tendance à dire que ce genre d'enquête doivent être faites avec calme et tranquillité, et que quelques générations plus tard, c'est pas plus mal. Mais effectivement, là, de toute façon, plus vous attendez, plus tout le monde vous dit, c'est si vous cachez quelque chose, c'est que vous êtes responsable.
Mais c'est ce qu'on comprend, c'est qu'on comprend que la France est coupable. Et si jamais on découvre que la France est innocente, personne n'y croira.
Non, mais le rejet, évoluer par rapport à l'émotion, c'est pas toujours une bonne solution. Non, mais surtout, la vraie question, c'est les archives, puisque en fait, vous avez des archives qui sont sous protocole, c'est-à-dire que Mitterrand a nommé un mandataire qui, jusqu'en 2021, contrôle les archives, et qui aujourd'hui est la seule personne qui peut dire je donne ou je donne pas les archives. Donc aujourd'hui, vous pouvez effectivement créer une commission d'historiens et de chercheurs, mais ce qui compte, c'est le mandataire qui a été désigné par François Mitterrand.
Sur la Fondation François Mitterrand.
Voilà, c'est les archives de la Fondation François Mitterrand. Non, parce qu'il y a aussi, il y a toutes les notes diplomatiques, les télégrammes diplomatiques, et c'est ça. Et est-ce que ça va sortir aujourd'hui, ou est-ce qu'on va attendre 2021 pour avoir tous les éléments qui seront, à mon avis, les plus intéressants pour tout le monde?
Franck de Dieu, est-ce que Emmanuel Macron fait finalement œuvre d'historien ou de politicien dans cette affaire?
Je dirais un peu les deux. Pourquoi? Parce que d'abord, il a envoyé pour la commémoration au Rwanda Hervé Berville, qui est un député tout
originaire.
Donc il n'y est pas allé lui-même, n'est-ce pas? Sur le plan du geste, moi, je crois que c'est la France doit pouvoir regarder, je dirais, l'histoire en face, de pouvoir se regarder dans les yeux. Mais attention, Éric Scholl parlait très justement, il parlait des hautes autorités de l'État. Il faut pas que ça devienne, il faut que ça soit circonscrit à cet univers-là. Moi, ce que je redoute aussi, c'est de ne pas glisser, ne pas glisser dans trop d'émotions, de rester avec quelque chose, même si c'est un sujet extrêmement douloureux, de rester sur des considérations presque scientifique, d'expert.
Mais là, on est presque encore dans l'actualité. Et de ne pas. Arnaud Clair avait raison en disant 25 ans, finalement, on est encore.
Et juste pour terminer, c'est qu'il ne faudrait pas qu'on reste sur ces autorités de l'État, mais que ça glisse pas dans une sorte de masochisme national dont nous sommes coutumiers, avec une haine de soi,
qui là, pour le coup. Il y a des choses très.
Tout à fait,
absolument.
Savoir
ce qui s'est passé, oui ou non.
Pas tous en même temps, là. Ça ressemble à hier.
Antoine Boulet.
Paul Kagame est toujours au pouvoir, donc on ne peut pas être naïf.
Président Wander.
Le président de la République a posé un certain nombre d'actes positifs. J'en prends un. Il a accepté plus exactement la nomination de Louise Mukuchiwago au secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie. Donc c'est un geste très fort, parce que la francophonie, dans nos relations avec les pays d'Afrique, c'est un geste très fort. C'est une Rwandaise. Et il n'y a eu aucune réciprocité. C'est-à-dire que Kagame est toujours dans une instrumentalisation très forte. Je pense qu'il ne faut pas être dans la naïveté. Le président
Kagame aussi fait de la politique.
Oui, bien entendu qu'il fait de la politique. Alors le président a raison, inversement. La France n'a pas
pas peur de la vérité. C'est le message qu'il porte. Il a porté ça sur l'Algérie, et je pense que c'est un message qui politiquement est très fort et qui est dans la continuité de la plupart de ses prédécesseurs. Mais en revanche, il ne faut pas oublier, on était seuls sur place. Les Canadiens et les Belges ont beau jeu de crier haro sur le baudet, nous étions seuls. Donc peut-être nous n'avons pas assez intervenu pour empêcher des choses, mais il faut respecter aussi nos soldats.
Allez, les informés, on va boire un verre d'eau, on va laisser passer l'info, la météo, et on se retrouve dans 5 petites minutes pour la deuxième partie de cette émission.
Pour les 10 ans de l'émission,
ça peut pas faire de mal.
Guillaume Gallienne met les femmes écrivains à l'honneur.
Je suis devenu indigne de l'école privée, de son excellence et de sa perfection. Je suis entré dans la honte. Le pire dans la honte, c'est qu'on croit être seul à la ressentir.
Retrouvez Marguerite Yourcenar, Simone de Beauvoir, Marguerite Duras, Annie Ernaux dans un livre CD. Ça peut pas faire de mal. De Guillaume Gallienne, une coédition France Inter, à lire et à écouter.
Politique, culture, internationale, sport, économie. Pour l'info 24h sur 24, France Info, 2 points, ouvrez l'info. France Info Météo, avec les cafés Malongo, grand cru biologique et équitable. Sans aluminium, nos doses en papier protègent l'homme et la nature. À retrouver sur malongo.com.
Jean-Pierre Hameau.
Prévoyez un temps nuageux et pluvieux aujourd'hui entre la Bretagne et la Méditerranée, en passant par la région Poitou-Charentes, le Limousin, le Centre, le Massif Central, la région Midi-Pyrénées et le Languedoc-Roussillon. On attend de fortes pluies orageuses vers le relief des Cévennes. Prévoyez de bonnes chutes de neige au-dessus de 800 mètres d'altitude. Ces orages vont gagner en cours d'après-midi les Bouches-du-Rhône, puis le Var. Et attention, il faudra surveiller le caractère parfois violent de ces orages, avec un risque notamment de fortes rafales de vent. En revanche, vous profiterez encore d'une journée plutôt bien ensoleillé en gagnant la région parisienne, les Hauts-de-France, le Nord-Est mais aussi la Bourgogne-Franche-Comté et le Nord des Alpes. Côté température, les maximales cet après-midi seront comprises entre 11 et 19 degrés. Ne comptez pas plus de 11 degrés à Nantes et à La Rochelle, 12 à Rennes et Cherbourg, 14 à Tours, Bordeaux et Toulon, 15 à Toulouse et Marseille. Prévoyez 16 à Lyon, 17 à Dijon, 18 à Strasbourg. La maximale des 19 degrés est attendue dans la capitale.
Prévision météo signée Jean-Pierre Hameau. Vous écoutez France Info. Il est 20h30.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
Et l'info, c'est avec Emmanuel Langlois. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir Olivier, bonsoir à tous. La volonté d'apaiser les tensions entre la France et le Rwanda, 25 ans après le génocide, les commémorations ont lieu ce dimanche. Emmanuel Macron annonce la création d'un comité d'historiens. Ils auront accès, promet-il, à toutes les archives françaises sur la période pour faire la lumière sur le rôle joué par les autorités françaises dans ce génocide. À chaque commémoration, les mêmes polémiques sur le rôle de la France ressurgissent. C'est une violence pour les rescapés, déplore Jeanne Allaire. Elle est survivante du génocide rwandais. Elle a perdu son père, sa sœur et une quarantaine de membres de sa famille dans ce drame. Écoutons-la.
On demande aux hauts responsables de l'époque juste d'arrêter de créer l'ambiguïté dans les têtes des Français. Il y a eu un seul génocide qui a été fait contre les Tutsis, planifié. Le reste de débats, ils pourront l'avoir, mais pas le 7. Nous avons demandé en effet au président à ce qu'il y ait une parole forte qui coupe toute ambiguïté et qui nous empêche de nous reconstruire, de nous souvenir, de transmettre dans la dignité et dans l'apaisement. Surtout qu'ils disent que ce génocide a eu lieu, qu'il n'y a pas un double génocide, que les Tutsis ne sont pas responsables de leur propre mort. Et après, si ils pouvaient nous dire quel a été en effet le rôle de la France, on est tout ouïe.
Une survivante du génocide rwandais, Jeanne Allaire, a noté que l'association de rescapés Ubuka a été reçue par le chef de l'État et demande la création d'un lieu de mémoire nationale en France. La CFDT appelle à son tour à rejoindre la grève des fonctionnaires. Ce sera le jeudi 9 mai contre la réforme de la fonction publique. Le mouvement sera du coup unitaire. Les syndicats dénoncent la réforme et réclament une hausse de leur pouvoir d'achat. Christophe Castaner accuse les ONG d'avoir pu se faire complice des passeurs en allant secourir les migrants migrants en Méditerranée. Le ministre de l'Intérieur qui parle d'une réelle collusion, notamment de contacts téléphoniques avec des passeurs, et appelle les ONG à avoir une attitude responsable tout en assurant qu'elles jouent un rôle essentiel. L'association SOS Méditerranée dénonce des propos totalement scandaleux. Fin de citation. Un Français arrêté à Besançon, de retour de Thaïlande, puis mis en examen et écroué pour une cinquantaine de viols sur mineurs commis en Thaïlande, mais aussi en Malaisie, aux Philippines et en Inde. L'homme âgé de 51 ans enseignait le français dans un centre de langue à Singapour. Theresa May demande donc un report du Brexit jusqu'au 30 juin, quitte à organiser à contre-cœur les élections européennes du mois prochain. Pour l'Élysée, l'extension est un outil, pas la solution en soi. Donald Tusk, le président du Conseil européen, propose lui un report flexible du Brexit allant jusqu'à un an. Et puis cette énorme mobilisation à nouveau en Algérie. Pour le premier vendredi post-Bouteflika, le centre d'Alger était bondé. Les manifestants refusent toute implication des anciens fidèles du président démissionnaire dans la transition politique. Ils veulent aussi le départ du système.
20h, 21h, France Info, les informés, Olivier Delagarde.
Toujours en compagnie ce soir d'Éric Scholl, le directeur de la rédaction de Courrier International, de Franck Dedieu, le directeur adjoint de la rédaction de Marianne, d'Arnaud Clair, avocat associé du cabinet Lafarge, et d'Antoine Boulet, partenaire en charge de la communication de crise chez Havas. Et on va parler maintenant de la loi anti-casseurs, dont l'article phare, vous avez vu ça, a été retoqué par le Conseil constitutionnel. Cet article prévoyait effectivement la possibilité pour les préfets d'interdire à certaines personnes de manifester, des personnes repérées précédemment pour des actes de violence. Alors je vous propose d'écouter d'abord la réaction de Christophe Castaner, le ministre de l'Intérieur, qui n'a pas caché une certaine irritation lors d'une conférence de presse.
Je regrette cette décision parce que je pense aux forces de l'ordre qui l'attendaient et qui attendaient ce nouvel outil qui est nécessaire. Je regrette parce que je pense aux commerçants, aux maires, aux habitants de nos villes qui souffrent tous les samedis de ces violences-là et qui ne supportent pas de voir des individus qui, la semaine précédente, ont pu être identifiés comme auteurs revenir le samedi précédent. Mais je ne conteste pas l'analyse juridique, ni, et encore moins, la décision du Conseil constitutionnel. Donc, j'en prends acte.
Arnaud Clair, je vois avec un sourire un peu goguenard, en écoutant le ministre de l'Intérieur tout de même.
Non, mais j'aime bien j'aime bien mon Conseil constitutionnel parce que il rappelle le béaba de notre démocratie, de notre constitution, c'est-à-dire qu'il y a quand même un droit d'expression collectif qui doit être protégé. Mais il faut rassurer le monsieur le ministre, parce que le ministre de l'Intérieur, parce qu'il peut changer la loi, parce que le Conseil constitutionnel n'a pas dit votre idée est mauvaise, il dit juste vous avez le droit d'une certaine manière de limiter le droit collectif d'opinion, de manifester, mais pour ça, il faut un peu plus l'encadrer que vous ne l'avez fait, parce que vous avez absolument pas adapté votre loi. En fait, la loi, elle dit, monsieur le préfet, vous avez à peu près la possibilité d'empêcher tous les gens que vous voulez de manifester. Et aujourd'hui, on pense que les préfets sont très bien, mais peut-être que plus tard, quand on aura d'autres régimes, les préfets ne seront pas exactement les mêmes. Et donc, le Conseil constitutionnel nous dit simplement, vous pouvez faire la même loi, mais vous me mettez des garde-fous, vous mettez quelque chose de plus adapté qui permette au préfet d'être un peu plus limité dans ses décisions. Et puis, il faut quand même rappeler que les deux autres articles du texte ont été validés, c'est-à-dire la fouille pour les voitures et les personnes, et également le fait de
dissimulation de visage.
Voilà. Donc, un Conseil constitutionnel qui fait très bien son travail.
Bon, alors ça, c'est l'explication juridique. Oui. Antoine Boulet, c'est un camouflet pour le gouvernement ?
C'est pas du tout un camouflet, mais en revanche, c'est des maladresses de sa part à deux moments. Premièrement, il faut rappeler que c'est une proposition de loi déposée par Bruno Retailleau, donc qui est un chef de file de l'opposition.
Les Républicains.
Deuxièmement, l'amendement concernant l'interdiction, la possibilité donnée au préfet d'interdire, mais cet amendement n'était pas assez encadré, comme vous venez de le dire, Arnaud. C'est un amendement du ministre de l'Intérieur lui-même. Donc ça, ils se sont pris les pieds dans le tapis, tout seuls, comme des grands. Deuxièmement,
donc c'est un camouflet.
C'est pas un camouflet, mais c'est le Conseil constitutionnel est dans son rôle.
C'est pas une situation de crise, là, chez Havas, là, vous agitez pas, disons,
non,
c'est la crise.
Mais en revanche, je dirais que les propos du ministère de l'Intérieur sont, à mon avis, inutile, voire inopportun. Il faut respecter la décision du Conseil constitutionnel. Il n'avait qu'à rédiger sa loi mieux que ça. Et ce n'est pas le rôle du ministre de l'Intérieur de critiquer une décision de la plus haute juridiction du pays. Voilà.
Éric Scholl, vous êtes hilar également.
Mais non, mais ça fait on a l'impression, ça fait un côté un peu amateur dans une situation qui est quand même beaucoup plus grave. Quand il nous dit, il faut protéger, moi je pense aux commerçants, etc., il fallait y penser avant et faire une loi qui puisse passer le cap du Conseil constitutionnel. Sur le fond, on voit quand même que il y a un côté dans cette majorité, on retrouve le en même temps, parce que on fait cette loi et en même temps on se rend bien compte qu'il y a 50...
Et en même temps,
50...
le président de la République
c'est lui-même qui saisit le Conseil constitutionnel, parce qu'il prend acte que 50 députés de La République En Marche n'ont pas voté cette loi, donc on le sent quand même un peu gêné aux entournures. Cette loi était défendue par le côté, plutôt de la côté, par la droite, donc on les sent pris dans ce... Voilà, dans ce... ce débat entre l'ordre et le maintien de la liberté. Il y a certainement une voie qui a bien été d'ailleurs précisée par le Conseil constitutionnel. On ne fait pas n'importe quoi. La marge de manœuvre était excessive. Maintenant, éventuellement, au gouvernement, s'il veut, de revenir là-dessus, avec une marge de manœuvre qui sera beaucoup plus spécifiée, en tout cas beaucoup plus précisée.
Bon, on a du mal à y comprendre quelque chose. Franck de Dieu, vous qui lisez dans la stratégie de La République En Marche, comme dans un livre ouvert, oui, Marianne, vous êtes comme ça. Mais expliquez-nous, qu'est-ce qui se passe?
Je pense que c'est assez habile, finalement, de la part du président de la République, d'avoir lui-même saisi le Conseil constitutionnel. Et pour le coup, c'est le gouvernement qui se retrouve un petit peu dans une position un peu délicate. Et ce n'est pas qu'une question de forme, c'est aussi une question quand même de fond. Je vais vous lire quelques mots de la décision du Conseil constitutionnel. Ça la fout mal, me semble-t-il. Il y voit, je le cite, une atteinte au droit d'expression collective des idées. Alors on se dit, mais c'est pas possible, ça, c'est pas dans des grandes démocraties, une loi ne porte pas atteinte au droit d'expression des idées. Eh bien, selon le Conseil constitutionnel, c'est le cas. Et donc là, je crois que c'est quand même finalement, on peut y voir un aspect stratégique entre l'Élysée et Matignon. Non, il y a aussi quand même un coup politique, je crois. Pourquoi? Parce qu'il donne l'impression, il donne l'image du en même temps, d'un mauvais en même temps, si j'ose dire, c'est-à-dire à la fois...
On pose une loi et en même temps...
Et à la fois, même sur le plan purement, je dirais, macro-politique, c'est-à-dire vous avez d'un côté un libéralisme économique et de l'autre, une fermeté, voire un autoritarisme un peu sociétal. Et là, je me dis, mais au fond, cette stratégie-là qui est libérale en économie et un peu autoritaire sur le plan sociétal, quelque part, c'est celle de Bellamy, c'est celle des Républicains. Et sur ce coup-là, j'ai l'impression qu'ils ont déjà capitalisé, ils sont déjà plus forts que La République En Marche sur ces deux, sur ce trait politique-là. Là, je pense que pour le coup, c'est mal joué.
Antoine Boulet, je ne vous sens pas du tout convaincu.
Non, je vois pas bien le rapport avec le libéralisme économique dans cette décision du Conseil
constitutionnel. Non, je dis globalement sa politique.
En revanche, je trouve qu'il faut faire la pédagogie des décisions du Conseil constitutionnel. C'est une instance très utile dans notre pays. C'est pas un camouflet, c'est pas politique. Il préserve nos libertés fondamentales et c'est très bien.
Allez, les informés se poursuivent. On va juste dire bonsoir à nos téléspectateurs parce que la télévision va décrocher pour cette émission spéciale Cidaction. On se retrouve dans 1:20 pour la suite 100% radio des informés. Pour l'heure, il est 20h40. Toute l'info, Jules Lekis.
Plus de 3 ans après le scandale du Dieselgate, l'Union européenne accuse 3 constructeurs allemands d'avoir sciemment évité de réduire les émissions polluantes de leurs voitures. Elle cite BMW, Daimler et Volkswagen qui se seraient entendus pour éviter de se faire concurrence sur leur technologie anti-pollution. BMW conteste ce soir ces allégations mais provisionne 1 milliard d'euros en vue d'éventuelles retombées négatives. C'est une victoire pour de nombreux plaignants et les associations de victimes de l'amiante. La Cour de cassation décide de reconnaître le préjudice d'anxiété pour tous les salariés exposés. Jusqu'ici, seuls ceux qui travaillaient dans les entreprises déjà identifiées pouvaient y prétendre. Cela va donner droit à des indemnités avant même qu'une maladie se déclare. Il faisait du tourisme sexuel en Asie. Un professeur de français à Singapour vient d'être arrêté en France. Il est accusé d'une 50aine de viols sur mineurs qu'il a en partie reconnu. Les policiers ont retrouvé des vidéos et des photos le mettant en scène dans son ordinateur. Il est placé en détention provisoire. La vente de médicaments dans des supermarchés, c'est non, mise au point de la ministre de la Santé. Cela menacerait les pharmacies, surtout en zone rurale, selon Agnès Buzyn. Elle s'oppose donc à l'autorité de la concurrence qu'il préconise. Mick Jagger se porte comme un charme. Il dit se sentir beaucoup mieux aujourd'hui. Après une opération du cœur, il entame sa convalescence et remercie ses fans de leur message de soutien sur Twitter. Et puis Marseille se déplace à Bordeaux en ouverture de la 31e journée de Ligue 1 de football. Coup d'envoi dans 5 minutes à peine. L'OM va-t-il faire mentir les statistiques? Cela fait 42 ans qu'il n'a pas gagné sur la pelouse des Girondins.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
FIN, fin, c'était hier en Corse le dernier débat du grand débat. Après des heures de dialogue, de rencontres, d'écoute, de réponses, Emmanuel Macron a mis un terme à cette grande thérapie collective. Écoutez.
Il y a peut-être parfois des décisions qui ne feront pas plaisir. Je les expliquerai à chaque fois et je ferai toujours ce que je crois juste. Mais je le ferai toujours dans cet esprit. Parce que c'est celui que je vous dois, c'est celui qu'on doit à l'histoire, à l'identité de la Corse, c'est celui qu'on doit à notre République et c'est celui que nous devons à notre jeunesse. Alors je vous remercie.
Voilà, depuis le mois de janvier, le président de la République aura passé des dizaines d'heures à écouter, à débattre dans 11 régions différentes, sans compter les réunions organisées à l'Élysée. Franck de Dieu, finalement, l'opération aura été bénéfique pour lui ?
Je pense qu'on peut répondre à cette question lorsque les premières décisions viendront.
Ah, mais alors, ça, c'est la deuxième.
Ah, non, mais attendez, d'abord, parce qu'il a fait le plus facile. Il a fait ce qu'il savait faire, c'est-à-dire expliquer.
Fallait quand même le réussir.
Bien sûr. Il a fait le bon élève qui sait exactement la problématique qu'il y a au croisement entre la route nationale et la départementale. Il a su parler à des lycéens. Il a su parler même aux Corses. C'était pas la
partie. Même aux Corses.
Parce que c'était pas facile, parce qu'il n'était pas.
Attention à ce que vous dites.
Non, mais c'était pas facile pour lui. Donc effectivement, ça c'est réussi. Mais maintenant, la vraie question est là où il jouera véritablement le reste de son quinquennat, c'est sur les décisions. Et là, sur les décisions, c'est là où on l'attend. Et je le disais la semaine dernière, on l'attend un milliard de dépenses, un milliard d'euros pour favoriser le pouvoir d'achat.
Si vous le disiez déjà la semaine dernière, laissez parler Arnaud Clair. C'est une bonne opération quand même pour lui.
Non, moi je pense qu'il a bien rattrapé. Il faut se souvenir dans quel état on était il y a quelques semaines. Et je pense que l'opération sauvetage a bien réussi. Mais c'est vrai que c'est le premier étage et la deuxième partie va être très compliquée, parce que j'aurais tendance à dire que quand on fait un grand débat, il faut qu'après il y ait des grandes idées, des grandes décisions qui en découlent. Et vous avez quand même une difficulté, puisqu'il a été élu pour nous expliquer qu'il était pour l'équilibre budgétaire, que soit aujourd'hui il va aller sur un renoncement sur tout ce qu'il avait promis et il va lâcher les milliards. Alors en même temps que vous avez des gilets jaunes qui vous disent « moi je veux plus de services publics, mais je veux moins d'impôts ». Donc ça va être quand même très compliqué à mon avis, parce qu'on va attendre des grandes décisions. Et malheureusement, je pense que pour certains Français, les grandes décisions, c'est un peu plus d'aide, un peu plus d'État-providence.
Qu'est-ce qu'il peut annoncer,
alors,
Antoine?
Moi je dirais, premièrement, les gilets jaunes ne seront pas satisfaits. Donc il ne faut pas qu'ils se trompent. Ce n'est pas aux gilets jaunes qu'il doit répondre. Ce n'est même pas aux 1 700 000 participants au grand débat. C'est aux Français. Premièrement. Deuxièmement, ce débat, ce mouvement des Gilets jaunes est parti pas sur une réforme, pas sur la réforme de la SNCF, pas sur la réforme du droit du travail. Il est parti sur un ras-le-bol fiscal. Donc c'est pas en répondant, en dépensant plus et en taxant plus qui va satisfaire les attentes
initiales dans tous les sens,
de ce débat. Et troisièmement, le pays a besoin d'autorité et d'unité. Et par ailleurs, il a besoin d'un traitement différentiel sur les territoires. Quand vous voyez la différence de perception en cartographie, vous avez fait ça vous-même sur France Info, sur par exemple l'accès aux services publics, vous voyez bien que la diagonale aride, cette fameuse diagonale...
La diagonale du vide
qui va de la Champagne au Gers, les gens ont un accès aux services publics très difficile. C'est ça les vraies questions soulevées par le mouvement dans son ensemble, pas par les 50 000 ultras qui continuent de manifester tous les samedis et auxquels il doit dire stop.
Éric Scholl.
Oui, ça ressemble un peu à une sorte de navette spatiale qui rentre dans l'atmosphère. Il faut réussir cette rentrée. On était un peu dans la stratosphère avec ce grand débat. C'était très bien parce qu'effectivement, ça a permis quand même, on est quand même sorti de cette période en décembre qui a été épouvantable. Et à un moment, on se demandait, mais qu'est-ce que fait le président de la République, etc. Donc, il a réussi pendant un moment à reprendre la main. Il a montré qu'il était capable de faire ses 92 heures de débat, lui. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est effectivement la question avec un budget avec pas de sous dans les caisses de la France. Donc comment on répond aux attentes qui sont multiples et qui sont extrêmement difficiles à classer.
Alors ce qui est quand même parfois contradictoire.
Et parfois contradictoire, mais au fond c'était ça aussi le grand débat. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a réussi à faire un exercice incroyable. C'est que l'étranger regarde ce qui s'est passé, parce qu'on a quand même réussi à faire remonter des contributions, à les regarder ausculter. Au fond c'est une sorte d'immense cahier de doléances. Maintenant il faut savoir sortir 2, 3, 4, 5 mesures qui seront à la fois politiques, donc certainement du côté peut-être de la décentralisation, du côté certainement de la fiscalité, parce qu'il y a une attente là-dessus. Je pense qu'il y a aussi une attente dans le gouvernement, je dirais dans la gouvernance, dans la façon aussi de gouverner le pays.
On regarde ça de l'étranger, on rigole aussi un petit peu de l'étranger. Franck Delieu, vous voulez rajouter un mot ?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, nous ne nous cachons pas derrière notre petit doigt. C'est une équation budgétaire qui est difficile à résoudre. On lui demande de dépenser plus et de taxer moins. Eh bien, effectivement, là, c'est vraiment l'épreuve vérité. Le roi est nu et ça apparaît véritablement. Je crois qu'il va s'apercevoir qu'il a les bras trop courts. Et donc, il va être, je dirais, contraint de faire des choix de politique économique absolument majeurs. C'est pour ça que la question de savoir, y a-t-il une contradiction entre le fait de dépenser beaucoup et de taxer moins ? Non. Cette contradiction-là, elle est levée par le recours à la dette. Il va peut-être, quelque part, faire du déficit public,
comme ses prédécesseurs.
Il va faire
son diagnostic et il sur va la
faire,
politique.
Attendez juste, je termine. C'est-à-dire qu'il est dans des circonstances où il peut faire du déficit public. Pourquoi ? Parce que les taux d'intérêt sont extrêmement bas et donc se pose la question, finalement, du bras de fer. Et là, pour le coup, c'est plus difficile que de faire des grands débats aux quatre coins de la France. Quelque part, c'est le bras de fer européen, c'est-à-dire est-ce qu'on peut changer de politique ? Est-ce qu'on peut renoncer aux 3% pour la deuxième fois depuis son quinquennat ? Est-ce que c'est possible ? Et je pense qu'il sera soumis à cette question-là.
La question, c'est aussi de savoir si
vous ayez les mains propres, c'est que vous n'avez pas de main. Il n'a pas de main.
Je vais quand même poser ma question. Est-ce qu'Emmanuel Macron peut prendre la décision tout seul ou est-ce qu'il va être obligé de passer par un référendum ? Antoine Boulay.
Il peut poser des questions institutionnelles par référendum sur un approfondissement de la décentralisation, sur la réforme, moins de députés, moins de parlementaires. Il l'a évoqué et je pense que ça répond à certaines attentes, peut-être un peu démagogiste des Français parce que c'est pas 100 parlementaires en moins qui changeront grand-chose, mais c'est une attente. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que s'il fait ce que vous dites, il est mort politiquement.
Pourquoi ?
Il a une ligne qui est la politique de l'offre. Il pense que le système, la France dans son ensemble peut produire plus de richesses, partager plus de richesses en s'allégeant, en allégeant la poids et l'hypertrophie du secteur. Secteur public improductif dans certaines sphères. Il a raison ou tort, c'est pas ce que je dis. Mais je dis que s'il se met à penser ou à faire ce que proposent ses opposants politiques, il est mort. Donc il a un diagnostic, il faut qu'il affronte cette crise avec sa ligne politique qui est la politique de l'offre.
S'il reste contraint sur le plan budgétaire, il est mort aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas suffisamment de croissance en 2019, on va avoir une croissance atone. Il est mort aussi s'il ne fait pas...
Bah,
c'est
on quand même peu, c'est très 2019.
Peu. Éric Jolle et puis Arnaud Clair.
Non, mais il va avoir aussi un problème au sein de sa propre majorité. Entendu, il est mort politique, c'est-à-dire que s'il veut changer de politique, on voit bien qu'il est arrivé avec le en même temps, avec des gens qui viennent plutôt de la gauche, des gens qui viennent plutôt de la droite, et on commence à voir du côté de tous ceux qui sont arrivés plutôt de la droite un barrage, une sorte de force de rappel pour dire attention, pas de question d'augmenter, de laisser aller la dette, etc. Et donc là, il va devoir trouver, il peut, s'il commence à dépenser en se disant il faut satisfaire toutes les demandes, il va avoir une partie de sa majorité qui va le quitter. Parce que
il est coincé.
Il a un problème politique de toute façon.
C'est-à-dire qu'il est coincé soit à Paris, soit à Bruxelles.
Il peut jouer aussi avec un calendrier. Est-ce que je fais quelque chose un peu en avril et puis j'étale dans le temps ?
Alors on vous entend pas, Arnaud Clair, parce que vous appuyez sur le bouton d'ordre en même temps. Oui, c'est un peu compliqué la radio, mais vous devez faire ça avec vos genoux qui sont pointus. C'est pas grave, on va continuer de toute façon à vous entendre, les informer, ça continue dans 1 minute 20, mais le grand gaillard qui vient d'arriver dans ce studio, c'est Jules de Kiss. Il va nous présenter l'actu à 20h50.
La situation s'aggrave un peu plus en Libye. Des combats sont en cours ce soir à quelques dizaines de kilomètres au sud de Tripoli. Les troupes du général Haftar, qui contrôle l'est du pays, ont décidé d'avancer vers la capitale. Des affrontements qui éclatent quelques heures après la visite du patron de l'ONU sur place, qui n'a pas réussi à faire baisser la tension malgré ses suppliques. La rue maintient la pression en Algérie. Une foule immense a de nouveau envahi les rues de la capitale aujourd'hui. Elle demande le départ de tous les membres du système Bouteflika encore au pouvoir. Une transition politique et de nouvelles élections doivent maintenant avoir lieu, maintenant que le président de 82 ans a démissionné. Pour l'Elysée, la Grande-Bretagne doit présenter un plan crédible de sortie négociée de l'Union européenne avant de demander tout report du Brexit. C'est pourtant ce que vient de faire à nouveau Theresa May. Elle demande à Bruxelles un délai supplémentaire jusqu'au 30 juin. Le temps que son Parlement puisse adopter l'accord de sortie négocié avec les 27. Deux policiers retrouvés morts dans un commissariat d'Avignon. Ce soir, ils se trouvaient tous les deux seuls dans la même pièce. Double suicide ou crime passionnel. Les deux suivis d'un suicide, les deux pistes sont envisagées. SOS Méditerranée dénonce des propos scandaleux. Réaction sur France Info alors que Christophe Castaner accuse les ONG qui secourent les migrants en mer d'avoir pu se rendre complices des passeurs. Elles sont parfois en contact téléphonique avec eux d'après le ministre de l'Intérieur.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et le vendredi, c'est polémique. Dernier thème, donc, avec cette petite polémique dont la France a le secret. J'adore ça. J'adore ce pays pour ça. Anne Hidalgo ne veut pas que Total puisse être sponsor des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Dans une lettre qu'elle a adressée au président du comité d'organisation de ces JO, Tony Estanguet, elle estime que les partenaires des Jeux Olympiques doivent répondre à des critères écologiques et éthique. Je vous ai coupé la parole, Arnaud Clair, parce que vous vous la coupiez vous-même en appuyant sur votre bouton. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oh ben c'est, elle est, je pense que Madame Hidalgo est dans son rôle de communicante sur sa ligne politique. Voilà, bon, ben il faut que je tape sur le pétrole, donc je tape sur le pétrole. Il reste que, à mon sens, il faut regarder un peu plus les choses précisément. Vous savez que donc Total est la quatrième compagnie pétrolière, mais c'est aussi la deuxième compagnie mondiale en énergie solaire, par exemple. Donc je pense qu'on a besoin de ce type d'entreprise pour développer l'énergie renouvelable, parce qu'on a besoin de financement. Et qu'on peut très bien garder Total. Mais
vous dites, Anne Hidalgo fait de la politique, ça veut dire qu'elle elle n'a pas véritablement de conscience écologique. Vous n'avez pas de conscience écologique, Franck Dedieu, vous allez bien.
C'est-à-dire qu'elle, elle est prise à son propre jeu, c'est qu'elle est plus exposée que les autres à toute forme de tartufferie. Donc il faut qu'elle soit, je dirais, plus vert que vert. Effectivement, vous avez raison, pourquoi a priori refuser Total?
Pourquoi est-elle exposée plus que les autres à la
tartufferie? Parce que le trait de sa politique, c'est la bienveillance. Qu'elle porte en bandoulière, elle invente des mots, des néologismes cool, sympathiques.
Non, ça c'était Ségolène Royal.
C'était le brouillon Ségolène Royal. Là, on a Anne Hidalgo, c'est vraiment le parfait, quoi. C'est vrai. Non, c'est une sorte de bienveillance absolue, de morale qui confine au moralisme, à la moraline. Et donc finalement, quand vous avez ce discours-là, que vous en faites votre trait saillant qui vous distingue des autres LREM, eh bien, effectivement, il faut que vous assumiez que vous alliez jusqu'au bout de cela. Et quelque part, oui, elle est politique, mais elle est aussi piégée.
Antoine Boulet.
Ah, elle a raison électoralement. Le combat anti-voiture, anti-bagnole, c'est sa ligne. Et il est très possible qu'elle l'emporte. Tout le monde la croyait morte il y a encore un an. On se rend compte qu'elle renaît de ses cendres. Donc de ce point de vue, électoralement, elle a raison.
Surtout que face à elle, pour le moment, c'est un peu flou.
En revanche, moi, je pose juste deux questions. Hein. Pour le moment, BPCE a donné 130 millions. Il reste 1,870 milliards à trouver. Donc, si on exclut Total, pourquoi pas? On peut aussi exclure LVMH.
Ah bah voilà, ça pour c'est les gens chez Havas, eux, ils font les comptes là, évidemment.
On peut exclure LVMH pour la condition animale, PSA pour les mêmes raisons, Engie pour les mêmes raisons. Il va rester qui? Des producteurs bio qui vont payer les Jeux Olympiques? Je pense que ça va être difficile à financer. Donc voilà, je pense qu'à un moment donné, il faut être réaliste. Si on veut pas que ce soit les contribuables, vous et nous, qui payons des équipements qui vont tenir 15 jours en 2024, il va falloir que les entreprises mettent au pot. Eh ben les entreprises, oui, elles font ce qu'elles peuvent, comme l'a dit Arnaud, elles progresse, mais c'est pas parfait. Mais on est dans ce monde-là. En revanche, électoralement, à mon avis, elle a parfaitement raison. Elle triangule, elle occupe le débat, elle occupe même les informés.
Ah bah ça, c'était la réussite absolue. Éric Scholl, directeur de la rédaction de Courrier International. Vous allez quand même voler au secours d'Anne Hidalgo là sur ce dossier.
J'aime pas qu'on prenne les Jeux Olympiques en otage pour une histoire pour une compétition électorale à Paris, parce que c'est ça le fond de l'affaire. Donc c'est quand même un peu dommage. Laissons les JO de côté. Ou alors sinon, par exemple prenons Total. Mais Total, il y a une fondation Total. La fondation Total, elle fait plein de choses dans le culturel à Paris. Alors tout ça va s'arrêter. Elle fait des choses aussi dans le social à Paris.
Vous êtes tous en train de défendre Total, quoi, finalement.
Non. Non, c'est pas ça, mais on l'a dit tout à l'heure. Mais
c'est ça.
Absolument pas. Mais on va pas non plus. Pourquoi est-ce qu'il faudrait à tout prix
stigmatiser
Total? C'est vrai, Total s'est mis dans le solaire, démarre dans l'éolien. Regardons peut-être ça. Peut-être qu'il y a des chartes à faire. Peut-être qu'il y a des conditions imposées sur le. Mais si vous voulez, ça serait peut-être beaucoup plus intelligent de se dire, ok, je les prends à telle condition. Mais se dire d'un coup, on voit bien qu'il y a un geste uniquement politique. Bon, voilà, pour finir ça, pour gagner quelque chose.
Contrairement à ce qu'on dit, l'argent a une odeur quand il sent le pétrole.
Oui, mais enfin, quand c'est Qatar Airways pour financer les formules électriques à Paris, ça, c'est pas un problème.
Il y a deux poids, deux mesures, à votre avis?
Non, mais il y a clairement deux poids, deux mesures, mais en même temps, ça nous dit, sur les municipales plus globalement, qu'elle est persuadée que les élections vont se gagner à gauche et avec les voix des écologistes. Elle est persuadée de ça. Elle a peut-être pas tort, ce qui est juste. Et si bien que, du coup, pour l'affronter, si on élargit un peu l'image au champ politique dans son ensemble, pour l'affronter, Benjamin Griveaux peut être le bon candidat parce qu'il va la prendre par la droite. Le combat entre Benjamin Griveaux et Mounir Majoubi, c'est de savoir, est-ce que le meilleur positionnement pour affronter Anne Hidalgo, c'est un candidat La République En Marche de gauche, puisqu'on a le en même temps, profitons-en, ou est-ce que c'est un candidat à La République En Marche de droite? Bon, il semble que si elle creuse ce sillon,
c'est plutôt un candidat qui donne envie aux Parisiens.
Oui,
c'est quand même ça l'arrivée.
Dans ce cas-là, je ne prononcerai pas sur... Je n'ai pas d'avis. Mais je sais que Benjamin Griveaux, c'est plutôt La République En Marche, un peu plus de droite.
Franck de Dieu, ça veut vraiment dire que la campagne est là, des municipales.
Oui, ça y est,
elle est partout tout le temps.
C'est un calcul, bien sûr, et ça correspond d'ailleurs au lancement de la campagne du côté de l'REM. Effectivement, il faut que, j'allais dire, qu'elle lave plus blanc que blanc, qu'elle lave plus vert que vert. Et ce qui se profile à l'horizon, c'est véritablement une campagne, un positionnement très à gauche, et j'allais dire plutôt très beau. Très bobo, où elle assume le fait, finalement, de s'intéresser à des gens qui ne s'intéressent pas, finalement, à la question du bouclage du budget des JO, parce qu'on n'en parle pas, mais enfin, apparemment...
Mais 97% du budget qui sera financé par de l'argent privé.
Donc, oui, alors, mais aussi, il manque à peu près 30% du budget total, sans mauvais jeu de mots, du budget global des JO. Donc, on est toujours pas à l'équation, la note n'est toujours
Vous
pas
savez,
réglé.
Même les mauvais jeux de mots sont acceptés, vous informez. Ce qui sont finis maintenant, désolé. Éric Scholl, très rapidement, la une de Courrier International
le
cette
Sahel,
semaine.
Le Sahel, la descente aux enfers. Et malheureusement, on a encore vu cette semaine que le militaire français a payé de sa vie cette guerre qui n'en finit pas, qui s'étend aux autres pays, au Burkina Faso, au Niger.
Franck de Dieu, la une de Marianne.
La réforme du lycée, les parents, les enseignants se posent des questions légitimes. Et bien, nous, on démêle le vrai du faux, le fake news, des vraies inquiétudes.
Eh bien, merci. À vous Arnaud Clair, merci à vous Antoine Boulet, très bonne soirée à tous. L'info continue sur France Info.